Radio Germaine.
Popcorn, l'émission pour savourer le cinéma.
Saison 15.
Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 15 de Popcorn sucré qui se fait encore une fois à distance malheureusement, mais la prochaine fois, retour en studio, c'est la bonne. Et bien sans plus tarder, commençons avec nos chroniques de la semaine. Je laisse la parole à Juliette.
Salut à tous, ici Juliette et je vous fais une petite chronique à distance sur un film que j'ai vu cette semaine. C'est pas un film qui est sorti récemment, il est sorti en 2023, mais je l'ai vu dans le cadre du Ciné-Club TCEDEC au Luminor. D'ailleurs, normalement dans l'épisode de Salé qui sortira dans la semaine, je vous parle notamment du Luminor. Et du fait que c'est un cinéma qu'il faut soutenir parce qu'il est menacé de fermeture. Donc si vous voulez, vous pouvez en fait juste aller sur le site du Luminor directement et vous pouvez notamment signer une pétition pour montrer votre désaccord rapport à cette possible fermeture. Bref. Moi, je reviens aujourd'hui pour vous parler du coup de Sabotage, qui est un film qui est sorti en 2023, réalisé par Daniel Goldhaber, qui est adapté notamment de How to Blow Up a Pipeline. Donc, Comment saboter un pipeline en français, qui est un livre qui a été écrit par Andreas Malm, qui pour le coup, le livre est une non-fiction. Et en fait, la particularité de ce récit cinématographique, c'est que lui, il parle du contenu brut du livre, que je n'ai personnellement pas lu, mais la séance était suivie d'une discussion avec justement Andreas Malm, qui était vraiment passionnante, et avec un des membres des Soulèvements de la Terre, qui je trouve, du coup, mettait super bien en valeur le film, en relief, etc. Bref, mais revenons à nos boutons. Donc, la particularité du film, c'est de faire de cet essai qui avait beaucoup fait parler de lui dans les milieux écolos, dans le milieu militant, parce qu'il parle de l'activisme et de la désobéissance civile, en fait, et de comment on s'organise pour contester un pouvoir qui n'est plus légitime et qui... Voilà, comment on s'organise face à ça quand nos droits sont menacés, etc., que la planète se meurt. Bref, je vous fais pas un topo, mais voilà. Et donc ce film-là a pour but de construire une fiction à partir de ça. Il le fait, je trouve, avec brio. C'est honnêtement vraiment sous tension, le rythme est super super soutenu. Les personnages sont super travaillés, il y a une super belle relation entre deux. Il y a vraiment des plot twists auxquels je m'attendais pas. Ça m'a vachement rappelé un livre que j'avais beaucoup aimé qui s'appelle « Le gang de la clé à molette ». Qui raconte, là aussi du coup c'est une fiction, mais sur encore une fois la désobéissance civile environnementale. Et donc là en fait, pour vous donner un petit résumé quand même du film, c'est une bande d'amis, enfin au départ ils se connaissent pas nécessairement, on voit qu'ils sont un peu ramenés un peu de part et d'autre via diverses relations, qui se retrouvent pour, comme le titre l'indique, enfin en anglais du moins, les faire sauter littéralement un pipeline dans le Texas. Et donc ça en fait on voit toute l'élaboration du plan, toute l'organisation. En fait on pense que ça se fait comme ça, mais en fait on voit pas, enfin faut construire des bombes, c'est hyper complexe, etc. Il y a une très très grosse tension, on voit les enjeux aussi en fait, et je trouve que c'est un super film, notamment aussi pour les initiés. Parce que c'est pas un film qui va expliquer l'écologie et pourquoi on est un peu dans la merde, même si, parce qu'il y a déjà plein de ressources, hein, je veux dire, sur le sujet. Mais si vous vous intéressez à ce sujet-là et que vous intéressez du coup aussi forcément un peu à comment on fait pour faire bouger les choses face à cet état de fait, ce film-là, je trouve, donne vachement d'espoir. Je vous invite du coup également à lire le livre d'Andreas Malm qui, je pense, du coup complète bien les deux, sachant que du coup, même si c'est une adaptation, on n'est pas sur deux mêmes types d'œuvres. Il y a une fiction, il y a une non-fiction, et je pense que les deux sont hyper intéressantes, et en tout cas, moi, ça m'a super donné envie de lire le livre d'Andreas Malm. Donc voilà, ça c'était ma petite chronique sur Sabotage. Voilà.
Je suis Alix et moi je vais vous parler d'un film documentaire qui s'appelle La Base, qui a été réalisé par Vadim Dumesh et qui sortira le 3 avril de cette année, donc littéralement dans 2 jours en fait. Et j'ai eu la chance d'aller le voir en projection presse, donc c'est toujours super cool de voir un film après, avant sa sortie en fait. Donc le film documentaire va se tourner autour des chauffeurs de taxi parisiens, surtout de la base arrière de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, et qui est une sorte de zone de transit énorme avec plein de taxis et qu'on a tendance à oublier parce qu'elle est derrière l'aéroport en fait. C'est un film d'1h12, donc c'est assez court et pourtant c'est assez intense. J'y suis allée sans avoir beaucoup d'attentes particulières. Je me suis dit, bon, c'est une projection presse, c'est un film docu, pourquoi pas. Et finalement, j'ai été très 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 agréablement surprise. Avant de parler du message en lui-même du film documentaire, il faut parler quand même de la réalisation parce qu'elle est assez importante ici. On mise vraiment tout sur l'hyper-réalisme, mais on va jouer le jeu jusqu'au bout. Il n'y a vraiment aucune narration, aucune musique. C'est extrêmement, extrêmement immersif en fait. C'est presque exclusivement composé de vidéos de téléphone, de caméscope, d'appareils photo. Donc évidemment, on a toujours des images de qualité en plus différentes, mais en général de mauvaise qualité, avec un son souvent qui grésille, on n'a pas toutes les informations. Donc voilà, il n'y a vraiment aucune mise en scène. On est littéralement à côté du chauffeur sur le siège passager presque pendant tout le film. Donc je trouvais que la mise en scène était intéressante à souligner parce que c'est extrêmement immersif et extrêmement efficace. Alors qui dit film documentaire dit évidemment message, et en une heure, même pas une heure un quart, on arrive à traiter de plein de sujets différents. Et c'est pour ça que aujourd'hui je vous recommande ce film documentaire parce que c'est vraiment super. D'abord, ce qu'on pourrait dire, c'est que le film il fait une vraie sociologie des chauffeurs. Personnellement, j'avais un peu une vision des chauffeurs isolés. C'est un métier qui est pour moi individuel. On reste dans la voiture, on ne connaît pas forcément toute une communauté, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. Il y a une vraie sociabilisation, il y a une vraie communauté. Tout le monde se connaît et c'est justement la base en question qui sert de zone de création de lien en fait. Et en fait tout le monde se connaît, donc tout le monde respecte les normes qui sont fidèles à ce groupe là. Il y a toute une organisation qui est vraiment spéciale, donc c'est vraiment une petite société en fait. Et donc voilà, peu importe les origines ethniques, culturelles, tout le monde cohabite et tout le monde se connaît. Et le lien de cette communauté là, c'est donc leur métier de chauffeur. On traite aussi d'un sujet qui peut fâcher dans l'actualité aujourd'hui, et c'est le rôle des communautés immigrées et de l'immigration en général. En fait, les chauffeurs là en tout cas du film documentaire, ils sont presque exclusivement des immigrés qui viennent des quatre coins du monde, même s'il y a quand même beaucoup de chauffeurs du Maghreb. Et dans le film, à un moment, il y a une femme qui en parle en rigolant, qui est assez fière d'elle, et c'est assez léger comme moment, et pourtant c'est un message qui est assez fort. Elle dit que sans les immigrés, la France elle resterait totalement à l'arrêt, et qu'ils jouent un rôle central dans le fonctionnement de la société et du pays, en s'occupant des tâches qui sont pas valorisées et pourtant qui sont totalement nécessaires. Et je trouvais ça vraiment assez fort et assez intéressant parce que les communautés immigrées qui font ce genre de métier précaire sont souvent invisibilisées. Et là, je trouve que c'était vraiment un super moyen de les mettre en lumière et de leur rendre un super hommage, quoi. Et l'autre sujet qu'on aborde, évidemment, si on parle de taxi aujourd'hui, c'est forcément de parler de l'arrivée des nouvelles technologies, des Uber... et même des premiers taxis sans chauffeur, des nouvelles technologies qui mettent en danger ces métiers-là, en fait. Dès le départ, dans le film, on voit déjà que leur métier il est particulièrement précaire, que ce soit la qualité de leur air de repos qui est assez déplorable, leur rythme de vie qui est assez épuisant, ils restent enfermés dans leur voiture, ils subissent le froid et les intempéries, c'est vraiment un métier assez compliqué, et on voit l'inquiétude en eux monter, on voit qu'ils se posent beaucoup de questions, donc voilà, le film, c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il prend pas le rôle d'un lanceur d'alerte, de quelque chose de surjoué, presque un peu de condamnation un peu cliché. C'est vraiment très réaliste et très humble, parce que, comme je vous le disais, il n'y a pas de narration du tout. Et on montre juste qu'ils sont inquiets et qu'ils se posent beaucoup de questions. Et des chauffeurs qui sont là parfois depuis les années 70... se disent c'est fini quoi, enfin notre métier dans quelques années ce sera la fin quoi. Donc voilà, moi je vous le conseille vraiment. C'est un film documentaire, c'est vraiment pas long, donc faites l'effort. C'est hyper intense, c'est hyper touchant. Et ouais, je trouve que c'est un film docu important, donc foncez. Et bien maintenant que nos chroniques de la semaine sont passées, on peut directement passer à nos coups de cœur et coups de gueule de la semaine. Et je laisse la parole à Anso.
Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un gros coup de cœur pour moi qui a été Her de Spike Jonze, que j'ai donc vu pour la première fois il y a environ 2-3 ans. Il date quand même de 2013. Il y a 2 mois, je l'ai quand même revu au Christine. Et en réfléchissant à ma chronique de cette semaine, je me suis dit pourquoi pas faire une petite pause dans mes révisions et y passer. À ma grande surprise, il était toujours à l'affiche. Et il y a 2 mois, sa diffusion au cinéma s'inscrivait dans le cadre d'une semaine entièrement dédiée à Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix qui va incarner Théodore. Au premier abord, Théodore, prénom doux, câlin, tendre, innocent, c'est exactement ce que l'on retrouvera en sa personne. Théodore travaille à Shanghai, dans une agence assez atypique. Il est écrivain fantôme chez beautifulhandwrittenletters.com pour qui il écrit des lettres personnalisées. Noces d'argent, anniversaire, Théodore excelle sur tous les registres. Et pourtant, il sort d'un divorce très difficile. Phoenix est un écrivain au cœur brisé, qui tombe amoureux d'un système d'exploitation proche de l'IA et incarné par Scarlett Johansson, qui prend la forme d'une oreillette Bluetooth prénommée Samantha. Au fur et à mesure que leur relation se construit, Samantha se transforme en une entité unique. Mais les choses se compliquent lorsque les émotions complexes de Théodore sont exacerbées par l'incapacité de Samantha à lui apporter un réconfort physique. Ce film regorge d'idées sur l'avenir de l'IA, des médias sociaux et des jeux vidéo. Mais malgré tout son bric-à-brac rétro-futuriste et ses suppositions sur la prochaine phase de la culture occidentale, ce qui impressionne dans Her, c'est sa simplicité et sa sensibilité. Her parle de choses universelles, l'amour, la connexion, l'intimité, le chercher, puis le trouver, puis la perte et le retrouver. Il s'agit d'un film heureux, triste, embarrassant et douloureux. C'est l'histoire d'un homme et d'une IA féminine désincarnée qui tombent amoureux et puis s'éloignent l'un de l'autre en raison de l'évolution rapide de l'espèce transhumaniste de Samantha. Mais on ne doute à aucun moment de l'authenticité et de l'épanouissement mutuel de leur amour. Si beautifulhandwrittenletters.com n'est pas une simple parodie d'emplois décourageants tels les décolleurs de chewing-gum ou les lécheurs de cartes postales, Her est, je l'estime, une satire, mais une satire qui, d'un point de vue émotionnel, résonne fort, très très fort. Comme Target d'Alexander Zeldovich, de 2011, auquel il ressemble parfois, Her traite les blagues comme des idées. Ce n'est pas parce qu'une chose est intrinsèquement drôle qu'elle est pour autant dénuée de sens. La plupart des scènes les plus complexes du film sur le plan émotionnel sont présentées de manière comique, comme lorsque Samantha introduit un substitut humain dans leur relation afin d'améliorer leur vie sexuelle. La prémisse même du film, un homme qui tombe amoureux de son système d'exploitation personnalisé, se lit comme une blague sur le narcissisme et la technodépendance. Mais si les premières scènes de Her frôlent la satire, Jones finit par faire marche arrière. Les scènes finales accomplissent un tour de force délicat. Elles affirment le caractère unique d'un lien humain en chair et en os, sans compromettre pour autant la relation entre Samantha et Théodore. En fin de compte, Her est à la fois une histoire d'amour transhumaniste, mais également une histoire d'amour résolument humaniste. Ce n'est pas un paradoxe, mais quelque chose qui met doucement en lumière la nature complexe et très contradictoire de l'amour et du romantisme.
Maintenant, parlons du coup de cœur et du coup de gueule de Juliette et Arthur.
Et c'est toujours Juliette, je suis de retour pour vous parler d'un coup de cœur. C'est une série cette fois-ci qui n'est pas récente, mais c'est pas grave parce que je la regarde en ce moment et je peux vous dire que ça égaye fortement mes journées et mes soirées. C'est The Office, donc c'est une série culte évidemment, mais voilà, c'était mon petit message si vous ne l'avez pas vu. Donc moi, comme précision, The Office, moi je regarde la version US, c'est celle que je vous conseille parce que je crois que la version UK est plus difficile d'accès.
Et la version française d'avec François Berléand, ce qui est vraiment genre le pire truc possible ever.
Voilà, merci beaucoup Arthur pour cette intervention. La version française est donc avec François Berlian. François Berlian que vous pouvez aussi retrouver dans un épisode de l'agence, la série Netflix sur les agents immobiliers de luxe. Bref, mais c'est vraiment pas ce pourquoi on est là. On est plutôt là du coup pour vous parler, enfin je suis plutôt là et Arthur a fait une incursion pour vous parler de The Office, qui est donc la série qu'on regarde en ce moment, qui est vraiment voilà, culte si jamais vous l'avez pas vu. En fait, on est dans un bureau d'une compagnie qui, enfin d'une entreprise qui fabrique du papier qui s'appelle Dunder Mifflin aux États-Unis à Scranton, et on suit la vie des employés de ce bureau qui globalement enfin ont vraiment rien à faire dans leur bureau justement, et c'est très drôle. On suit, c'est l'évolution des relations entre les personnages, et elle manie en fait enfin même si le plot est comme ça vous paraît super simple, en fait c'est sur le format sitcom, des petits épisodes de 20 minutes qui manie un humour noir mais à la perfection. Ça n'a vraiment vraiment pas vieilli, et je trouve que derrière tout l'arrière-plan également politique, parce que c'est quand même une critique vraiment acerbe du capitalisme et de travailler pour une entreprise de papier, enfin je trouve que c'est vraiment super intéressant. Des gens très très drôles, très attachants, humour noir mais super attendrissant, parce que les personnages sont quand même vraiment très très bien construits. On est, enfin voilà, je saurais pas quoi dire, j'en perds un peu mes mots, mais si, enfin si vous n'avez toujours pas vu The Office, c'est vraiment le moment de le regarder.
Non, puis pour ajouter un truc, je vole le micro. C'est une série qui arrive hyper bien à parler de gens qui dépriment, et c'est hyper réconfortant quand on a des coups de mou de rigoler sur et avec surtout des gens qui dépriment, parce que vous regardiez Michael Scott, du coup le personnage principal interprété par Steve Carell, que vous regardiez la totalité des personnages, c'est des personnages qui sont fondamentalement déprimés, qui ont une vie fondamentalement déprimante pour la majeure partie, qu'on n'aurait pas envie de vivre, pas parce qu'elle est horrible, juste parce qu'elle est chiante et qu'ils sont tristes et machin. Et malgré ça, ils arrivent à en rire, et en plus, ils ne transforment pas l'entreprise. Enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que les personnages arrivent à avoir une victoire, arrivent à être heureux, c'est quand l'entreprise prend un coup. Donc il y a un petit message derrière qui est beaucoup plus pincant que juste rigoler du monde de l'entreprise. C'est vraiment une œuvre hyper critique de ce qu'est l'entreprise et la gestion managériale qu'on a aux US, et, enfin, qui a été importée depuis aujourd'hui en France, et de comment on a essayé de faire croire que l'entreprise pouvait être une famille, et comment en fait ils arrivent à jouer de ça et à créer une famille ensemble contre l'entreprise même. Et c'est un truc qui est hyper drôle, et c'est hyper attendrissant, et c'est vraiment une série qui est doudou encore plus quand, je trouve, on est déprimé.
Voilà, et ben c'était notre petit coup de cœur collectif avec Arthur qui s'est rajouté. Et donc, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je le rajoute, et puis au pire, vous l'entendrez deux fois, la série est disponible sur Netflix en France, voilà, vous pouvez la trouver via ce biais-là, et nous, on vous dit au revoir, voilà. Dis au revoir, Arthur.
Au revoir.
Au revoir.
Alors, c'est Re-Alix, et moi je vais vous parler de d'un coup de cœur que j'ai eu cette semaine, qui est Nightcrawler, ou Nightcall en français, ou au Québec, Le Rôdeur, qui est sorti donc en 2014 et qui a été réalisé par Dan Gilroy. C'est un petit peu moins de 2 heures, c'est un thriller américain des années 2010, donc c'est pour ça que je vous en parle, parce que c'est un de mes genres de films préférés, qui mêle psychologie et action. Et l'argument final, évidemment, c'est qu'il y a Jake Gyllenhaal, dont je vous avais parlé déjà en faisant ma critique sur Ennemi de Villeneuve, et même, je crois, l'année dernière, en vous parlant de Prisoners. Donc bref, moi, j'ai découvert le film grâce à Jake Gyllenhaal, et je me suis dit, s'il joue dedans, c'est forcément un super film, et c'est pour ça que je vous fais mon coup de cœur dessus aujourd'hui, parce que c'est réel. Donc le film raconte l'histoire d'un mec un petit peu fauché, asocial et presque même un peu psychotique, qui cherche en fait un nouveau job, et il va découvrir le monde des médias en devenant caméraman pour une chaîne d'infos locale, et son job ça va être de filmer les images les plus chocs, que ce soit d'accidents ou de crimes, pour faire le plus d'audience possible en fait. Donc on va suivre le personnage principal dans cette course à l'image la plus violente, en essayant d'arriver toujours plus tôt sur les lieux et les scènes de crime, et parfois même avant la police. Sans trop vous spoiler, parce que je pense que le film est important il est important dans ce genre de film de garder quand même la petite surprise, même si vous vous doutez un petit peu de la suite. Donc c'est un film qui est une critique assez formidable de la société américaine, mais en fait par extension de nos sociétés occidentales en général, dans laquelle tout tourne autour des médias, et 10 ans plus tard, en 2024, c'est encore plus le cas avec les réseaux sociaux, sur les chaînes d'infos, on fait plus attention au buzz et à l'audience qu'aux arguments rationnels, on va dire. Bref. Le sujet principal du film, évidemment, c'est donc la course à l'audience, au buzz, qui est mêlée à la désensibilisation la plus totale de la violence, qui peut être la plus trash, la plus graphique, tout ce que vous voulez, en fait. Et le héros, joué donc par notre acteur favori, c'est une sorte de médium super intéressant pour introduire la critique, justement, de cette société occidentale. Le héros, il est à la fois l'acteur du phénomène, de la médiatisation, enfin même de la surmédiatisation de la violence, puisqu'il filme, il met un peu en scène, donc il va prendre de plus en plus une part active au phénomène, et en même temps, il est lui-même un peu victime. On dirait un peu une page blanche, en fait, il ressent presque rien, enfin rien en fait. Il est totalement impassible face aux cadavres qu'il filme, aux scènes de violence qui suscite quand même de l'émotion, il n'a aucune compassion. Donc voilà, il y a plein d'indices qui montrent qu'il est assez particulier, et au final, c'est pas un cas isolé, c'est pas juste un psychopathe, parce qu'il y a plein d'autres indices qui montrent, qui vont dans ce sens-là, notamment le fait qu'il apprenne tout sur Internet, il n'a pas fait d'études, et il va vraiment se nourrir de tout ce qu'il peut trouver sur Internet. Il va sortir des phrases, des répliques bidons dignes de blogs de développement personnel. Ça, c'est très très décalé, c'est très bizarre. Et en fait, c'est vraiment à travers ce personnage-là qu'on peut penser isolé, on se dit oui, non, c'est juste un psychopathe. En fait, c'est vraiment toute la société occidentale qui est représentée. Et comme je disais, 10 ans plus tard, c'est encore plus le cas. Internet nous apprend de plus en plus de choses et occupe une place de plus en plus importante dans nos vies. Donc voilà, on fait la caricature évidemment de cette société-là, tout le monde n'est pas un psychopathe, mais je trouve que c'est hyper intéressant quand même d'avoir utilisé ce personnage-là pour servir de pseudo critique, quoi. Et la réalisation en elle-même, elle sert totalement le propos de façon extrêmement intelligente. Alors, c'est pas un film d'horreur, donc âme sensible, allez-y. On a presque pas d'image graphique directe, donc c'est vraiment pas choquant. Enfin, c'est moins choquant qu'un film d'horreur, on va dire. Et en fait, on voit tout à travers la caméra du personnage principal. Bon, c'est une mise en scène qui est assez évidente, et pourtant qui reste toujours aussi efficace, donc c'est pour ça que c'est toujours un plaisir de la remarquer. Et le film, il se fait de façon graduelle, il n'y a pas de... Rien ne stagne, en fait, et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'on s'ennuie jamais. Et donc voilà, au début du film, on a un petit peu d'image brute, on voit que le personnage, il a des doutes. Et puis, au fur et à mesure, en fait, on se focus plus sur lui et sa caméra, plutôt que sur les images qu'il filme. On fait même plus attention aux victimes, en fait, et on se retrouve dans la peau du héros, quoi. Donc je trouve ça hyper intéressant. Et évidemment, en plus... Toute l'action, presque tout le film se fait de nuit, et donc c'est pour ça que le titre québécois du film est assez intéressant, parce que c'est vrai, le caméraman, en fait, il rôde, il part à la chasse, en fait, dans les rues, en attendant le scoop, l'image choc, donc ça crée, ça contribue à créer une ambiance dérangeante qui met bien mal à l'aise et qui est toujours aussi sublime, quoi. Donc vraiment, foncez voir Nightcrawler, c'est une vraie pépite. Ça reste toujours un gros kiff à regarder. Voilà, c'était l'épisode 15 de Popcorn Sucré. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut !